musique.
Caravanana maximum. Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du...
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive mon grand talent!
Vive le soleil!
Vive
les oreilles!
Vive!
We'll be right back.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4 en région parisienne et partout ailleurs dans le monde, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, émission consacrée aux musiques singulières et autres formes de création curieuses. Et nous, notre invité aujourd'hui est Clément Vercelletto.
Bonjour, salut à tous.
Bonjour. Nous aurons Patricia qui va nous aider à poser les questions. Qui va
bonjour.
Poser les questions. Bonjour Patricia. Et en régie, la technique, ce sera Laurent Pascal, notre ami Laurent Pascal. Peut-être pour commencer, Clément, par quoi? Alors, on va indiquer dans quelle formation tu joues, mais par quoi on a commencé notre émission?
Alors, on vient d'écouter un enregistrement qui a été fait par Yann Leguet, donc un ami qui, pour ceux qui connaissent,
on l'a reçu dans l'émission
notoire,
oui.
Du domaine du sonore. C'est un enregistrement qui a été fait avec deux tout petits micros, deux petits DPA, c'est des tout petits micros qu'il a mis sur chacune de ses épaules, à gauche et à droite. Et donc c'est l'enregistrement de la première partie du spectacle qui s'appelle Déraillement, qui est un spectacle mis en scène par Léa Drouet. Mmh. Et cette première partie, c'est une pièce que j'ai faite moi, qui s'appelle Tape Ensemble, et qui est donc une pièce faite à partir de 20 magnétocassettes bouclées. Donc c'est 20 interprètes qui se déplacent avec chacun un magnétocassette. Dans lequel il y a une cassette et sur cette cassette il y a plus ou moins 5 secondes de musique enregistrée et donc en boucle, donc la bande est collée sur elle-même et tourne en boucle, et donc c'est tout un jeu de déphasage. Donc voilà, on vient d'entendre une partie de Tape Ensemble, quoi, en gros, pour dire vite.
Eh ben, on terminera également l'émission. C'était notre dernière question à laquelle tu viens de répondre, Clément, bravo. Parce que en fait, il y aura un concert de cette formation le 18 mai aux Instants Chavirés, me semble-t-il.
Tout à fait.
Voilà.
Tout à
bon,
fait.
On va commencer par le commencement. Alors, je voudrais savoir, peux-tu nous décrire en quelques mots, hein, on va rentrer dans le détail après, mais en quelques mots, toutes les formations à laquelle tu joues?
Alors, principalement, en ce moment, les choses qui me prennent vraiment du temps, auxquelles je donne du temps, c'est donc Kaumwald, c'est avec Ernest Bergès, qui fait un solo connu sous le nom de Sourdure,
oui.
Que vous avez déjà croisé.
Oui.
Je joue également dans Organes, qui est un trio avec Ernest Bergès aussi et Laurent Gérard, qui s'appelle de son doux nom LG, E-L-G.
Oui.
Voilà, donc là c'est un trio. J'ai un solo que je joue un petit peu, mais pas trop, mais qui change de nom, mais on sait pas vraiment ce que c'est, et qui s'appelait à un moment Premier Chasseur. Je sais pas exactement comment il s'appelle maintenant. Des fois je joue plutôt sous mon vrai nom, Clément Vercelletto. Voilà, c'est un truc qui est un peu, voilà, qui est en train de se chercher. Et puis sinon, on a entamé une collaboration avec Julien Després, Arnaud Laprès et Bastien Mignot, qui sont trois amis, collaborateurs. Et en fait, on a commencé un groupe qui s'appelle Ishidenshin, et qui est un peu en stand-by, mais qui va sûrement reprendre. Enfin voilà, donc ça c'est aussi un trio quatuor, mais trois musiciens, un performeur, quatuor avec lequel je travaille aussi. Ça, c'est vraiment les groupes de musique, on va dire.
Après, il y a ton travail pour le théâtre et la danse, mais on y reviendra. Question classique dans notre émission maintenant, quelle a été ta formation musicale?
Alors, formation musicale, un peu un rebondissement, on va dire. J'ai commencé petit, quand j'avais 10-12 ans, à faire de la clarinette. En cours particulier, avec un super prof qui s'appelle Bruno Sansalone, que j'ai pas revu depuis hyper longtemps, mais... Voilà. Pour ceux qui connaissent, c'est un très bon clarinettiste. Donc j'ai commencé par faire ça. J'ai abandonné au bout de deux, trois ans, un truc comme ça. Puis j'ai fait beaucoup, beaucoup de percussions à l'ENM de Villeurbanne, qui est une super école, d'ailleurs, je le dis en passant. Donc à Villeurbanne, collé à Lyon, à côté de Lyon. Donc là où j'étais en percussion trad africaine, donc Malinké, Afrique de l'Ouest, plus précisément Guinée, Mali.
Mmh.
avec un prof qui s'appelle Nasser Saïdani, que je salue au passage. Et donc ça, ça a été, bah, on va dire, 5-6 ans de ma vie vraiment à faire quasiment que ça. Puis j'ai fait, pour des raisons de santé, j'ai dû arrêter de faire ça intensément, de faire la percussion intensément. Et du, en fait, je me suis dirigé, c'était un peu la même période où j'allais beaucoup aussi en fête techno, où j'allais, donc je me suis dirigé un peu naturellement comme ça vers la musique électronique. J'ai commencé par faire du DJing, puis j'ai commencé en autodidacte à apprendre à composer sur logiciel. Et voilà, à ce moment-là, j'ai fait un petit peu de classe d'électroacoustique au Conservatoire de Lyon aussi. En fait, toutes ces formations, c'est des trucs que je ne suis pas du tout allé au bout. C'est plutôt des choses que j'ai entamées, puis que j'ai laissées un peu en cours comme ça. Et c'est un petit peu l'histoire de mon parcours, c'est-à-dire qu'en gros, en général, j'aime beaucoup apprendre de nouvelles choses. J'ai un peu du mal avec la pédagogie classique, avec l'académisme et ce genre de choses. Et donc c'est vrai que j'ai souvent, à part pour la percussion, où ça a été pour d'autres raisons que j'ai arrêté, mais sinon c'est un peu des choses que j'ai traversées comme ça, où voilà, j'ai pas de diplôme, je suis pas diplômé. Voilà.
D'accord.
En gros.
Alors, moi, j'avais une question concernant l'électronique. Je sais pas si tu joues trop d'ordinateurs, de laptop, comme on dit, classiquement, ou si tu. J'ai plus l'impression que qu'il y a des pédales d'effet, du bricolage, enfin. Est-ce que c'est ça ou.
Ben, j'ai commencé par l'ordinateur.
Ouais.
Quand j'ai découvert, en fait, les premiers logiciels sur lesquels j'ai travaillé, un peu genre Rezone, ce genre de choses. Fruity Loops, etc. Bon, je cherchais un peu à faire de la techno ou la drum and bass, des trucs comme ça. C'était un peu les débuts. Et j'ai commencé un peu par l'ordinateur. Et puis petit à petit... j'ai fait énormément d'ordinateurs pendant 5-6 ans. C'était le centre, on va dire, de mon dispositif. Et puis vraiment, il y a eu un moment où j'en ai eu marre d'être face à un écran, en fait, de visualiser la musique aussi, je crois, beaucoup. C'est quelque chose qui, je pense, change vraiment la perception qu'on en a, détermine un certain nombre de gestes qu'on fait et qu'on ferait pas si on voyait pas la musique. Et donc c'est vrai que j'ai un moment, je me suis vraiment détourné de l'ordinateur pour aller vraiment que vers du hardware, comme on dit, hein, de la machine. Et donc du coup, maintenant l'instrument principal avec lequel je fais de la musique électronique, c'est le synthé modulaire et des pédales. Console, mixeur, synthé modulaire et puis des pédales d'effet. Ça c'est mon dispositif. Par exemple dans Kaumwald, c'est principalement ça que j'utilise.
D'accord. Alors, du coup, t'as l'ordinateur, t'as l'électronique, la batterie, la clarinette, je pense. Peut-être t'en joues encore de la clarinette, d'ailleurs ?
Ouais, en fait, je m'en sers. En fait, j'ai recommencé à en faire plus tard, vers la vingtaine, un peu pour moi, tout seul, comme ça.
Ouais.
Je me suis acheté un saxophone soprano, dont je joue aussi. Bah, tout ce qui est soufflant, en fait, j'adore. Donc, j'ai eu une flûte traversière à un moment, mais moi, je suis pas du tout virtuose. C'est des instruments dont je me sers, que j'utilise, que je détourne, on va dire.
Alors, justement, ma question, c'était par rapport à tes différents projets. Est-ce que tu limites ton instrumentarium à... Voilà, par exemple, tu vas jouer de l'électronique dans tel groupe, de la batterie dans tel autre, je schématise. Ou alors, est-ce que tu utilises tout ce que tu as à ta disposition dans tous les groupes ?
Avec Kaumwald, la question s'est pas vraiment posée dans le sens où déjà, ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble et qu'on s'est vraiment rencontré avec Ernest autour de la musique électronique.
Ouais.
Donc vraiment, l'idée, en tout cas l'envie de départ, c'était... on avait un peu le même genre de pratique, le même genre de dispositif, mais pas vraiment. Et puis, donc, il y avait tout un champ à explorer autour des lutheries électroniques, on va dire. Et donc, ça a fait une sorte de point de référence, comme ça aussi, Kaumwald, parce que c'est un groupe qu'on mène depuis un moment. Ça fait plus de 7 ans. Donc, c'est vrai que quand, par exemple, on a commencé Organies... Il ne s'agissait pas, bien sûr, de refaire en plus, parce que dans Arganiès, il y a Ernest et moi. Donc, dans Arganiès, il y a Kaumwald. Donc, c'est vrai qu'il s'agissait vraiment aussi de ne pas faire ce qu'on faisait avec Kaumwald et dans Arganiès. Donc, effectivement... mais après, ça s'est fait petit à petit, parce que au départ, les premiers concerts d'Arganiès, il n'y avait pas de batterie ou de tom ou de percussion acoustique comme ça. Moi, je faisais la boîte à rythme. Donc, j'étais encore aux machines. Et puis c'est au fur et à mesure, en fait, des répétitions, des concerts, etc., que j'ai commencé à amener un tom, qu'on a commencé à brancher des micros, et en fait que ce groupe s'est formé comme ça. Puis moi, ma place, elle s'est transformée, enfin, à chacun, je pense que c'est vrai pour les deux autres aussi, mais particulièrement pour moi, dans le sens où les instruments n'étaient pas les mêmes au départ et maintenant. Maintenant, j'ai vraiment une cymbale, deux tomes.
C'est fixé maintenant ?
Je ne sais pas si c'est fixé, mais en tout cas, on a enregistré le disque avec ce dispositif-là. Donc, en tout cas, c'est fixé pour l'instant. Ouais. Ben, jusque-là, c'est fixé. Puis c'est vrai que ça m'a amené aussi à... En fait, je me suis remis à faire de la percussion via Arganiès, beaucoup.
Ah ouais. Donc, c'est... Oui, bien sûr.
Donc c'est assez chouette.
Ouais. Et est-ce que c'est le choix des... Est-ce que c'est l'instrumentarium qui va déterminer l'esthétique d'une musique ? Ou est-ce que si tu avais, je sais pas, une idée d'une autre esthétique, je dis n'importe quoi, d'ailleurs du rock'n'roll ou je sais pas quoi, est-ce que tu te mettrais à trouver d'autres instruments ou... Tu vois ce que je veux dire ?
Je sais pas exactement. Ce que je sais, c'est qu'on est quand même une bande de gens qui m'ont bien détourné les instruments. Par exemple, dans Arganiès, Ernest, il joue quand même largement les lignes de basse avec son violon.
Ah oui.
Ce qui est quand même vraiment pas fait pour. Et pour autant, c'est ça qui est en train de se passer. Laurent, il a une guitare lélé, donc c'est une petite sorte de petit ukulélé, quoi, une guitare, un ukulélé à 6 cordes ou une mini guitare amplifiée, distordue, avec une sorte de son un peu. C'est pas le son d'une guitare, une guitare électrique, mais quand même électrifiée, quoi. Donc et puis moi, avec mes 3 tomes, je fais un peu une sorte de mélange entre de la percussion. On va dire pour dire vite trad africaine et puis de la synthèse des choses plus voilà plus électroniques et je suis pas certain que si on s'était dit bon déjà on savait pas exactement quelle musique on allait faire donc c'était un peu compliqué de se dire tiens on va faire telle musique donc on va prendre tel instrument. Ça a plutôt été l'inverse, je crois. Ça a plutôt été qu'est-ce qu'on peut faire avec les instruments qu'on a sous la main et comment on peut s'amuser à les détourner. Et moi, j'ai plutôt la sensation que, d'une manière générale, on peut arriver à faire la même chose avec... Enfin, la même chose. Plus ou moins le même résultat esthétique avec plein de dispositifs ou d'instruments différents. Mmh. Et j'ai l'impression que c'est plutôt dans ce sens-là que ça marche, quoi. Mais parce qu'aussi, on n'est pas dans une musique très puriste, quoi. C'est parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est aussi d'être un peu dans des mélanges, quoi.
Mmh.
C'est vrai que si on s'était dit, je sais pas, on veut faire absolument du doom façon Earth, par exemple, qu'est-ce qu'on fait ? Alors comment on fait ? Est-ce qu'il faut absolument avoir ce son-là ? Ou qu'est-ce qui définit le doom ? Est-ce que c'est ce son de basse, ce son... Ou est-ce que c'est plutôt rythmiquement que c'est très lent ? Est-ce qu'on pourrait pas le faire avec une boîte à rythme et un ordinateur ? Enfin, tout ça, c'est des questions, moi, qui me semblent assez ouvertes. J'ai l'impression que... Ouais, on peut faire du doom avec une boîte à rythme, par exemple, ou...
Mais sur le plan des différents univers musicaux, tu revendiquerais un certain éclectisme ?
Je sais pas si je revendiquerais
ouais.
point en l'air comme ça, mais en tout cas, non, je crois que c'est, disons que j'aime me laisser surprendre par ce qui se passe, quoi. C'est plutôt ça, je dirais. Donc j'ai pas franchement de barrière. je crois que c'est un truc de confiance, quoi. Tant que je suis avec des gens en qui j'ai confiance et qui me disent, même s'il y avait, je sais pas, des potes qui j'ai confiance qui me disaient, viens, on fait de la drum and bass, par exemple, ou j'en sais rien, viens, on fait du tango. Je dis pas que c'est des musiques que j'aime pas, hein. C'est plus que c'est des musiques, par exemple, que je pense qu'ils sont dures à faire, difficiles à faire bien. Je pense que j'irais, faudrait travailler beaucoup. Mais donc éclectisme, je sais pas, plutôt recyclage, digestion, ouais. Et peut-être parce qu'aussi éclectisme, c'est un peu un mot comme ça qu'on entend beaucoup,
ouais.
et
ouais, c'est fait exprès.
Ouais. Du coup, c'est peut-être pas forcément ce mot-là que j'aurais choisi pour dire qu'en fait, j'espère rester curieux, on va dire.
Oui, et justement, tu disais que, bon, au niveau des études musicales, finalement, tu as fait beaucoup de choses, ouais. mais que tu n'avais pas tout mené jusqu'au bout.
Ouais.
Mais ces études de musique, est-ce qu'elles ont encouragé ta curiosité ?
Ben, ça dépend. Ça dépend lesquels, je crois. Par exemple, je pense que la classe de percussion trad africaine à l'École nationale de musique de Villeurbanne, je pense que oui, très clairement oui. Puis c'est aussi ça a aussi été un moment de ma vie où, enfin, je sais pas, on est parti deux fois en Afrique aussi. Enfin, ça a été quelque chose qui a été plus que de la musique. Donc, dans ce sens-là, ça m'a vachement ouvert sur beaucoup, beaucoup de choses. Je dirais pas forcément ça du conservatoire d'électroacoustique. Ouais, encore une fois, c'est pas pour être contre cette chose-là, hein, au contraire, mais il y a de fait, enfin, il m'a semblé, donc pas de fait, mais moi, il m'a semblé qu'il y a vraiment quand même un académisme et que je suis pas certain que moi ça me. Nous, on est arrivé là-bas au conservatoire avec un ami, avec déjà un bagage de bidouilleur, d'enregistreur, etc. Et c'est vrai qu'on avait déjà des envies, des goûts assez prononcés. Et on s'est vite retrouvé face à un cadre, c'était pas méchamment, hein, mais juste quand même, qui nous disait. Ça, c'est de la musique électroacoustique, et puis ça, c'en est pas. Oui. Et il y avait des fois sur des choses qui ça se jouait à très très peu, quoi. Et voilà. Et je crois que le côté scolaire, je crois que le côté, ouais, peut-être historique aussi, académique. Voilà, l'histoire de la musique électroacoustique française, c'est quand même un gros morceau.
C'est chargé.
Et, ouais, c'est chargé. Et je pense que c'est une musique qui subit justement potentiellement son manque d'ouverture. Et voilà, notamment je pense à cause du côté très savant, potentiellement savant de comment elle est enseignée, elle est construite.
Tu peux donner un exemple, moi ça m'intéresse, de ce qui est de la musique électroacoustique et ce qu'on n'est pas, par exemple.
Bah, par exemple, nous, on était arrivé avec un morceau de, je sais pas si vous connaissez, Death Prod. Non. C'est un mec, je veux pas dire de conneries, mais c'est un nordique. Il joue aussi dans un groupe qui s'appelle Super Silent. Et en gros, c'est du drone, tenu, hein, pas du drone rock, quoi. Et c'est hyper beau, c'est une sorte de musique très. Ouais, c'est une musique pour les morts un peu, hein. Ça s'appelle Death Prod. Il y a de la scie musicale ou en tout cas quelque chose qui s'en rapproche. C'est des très très longs morceaux, c'est assez. Voilà, moi que je trouve assez spirituel, assez beau. Et bah, par exemple, ça, c'en était très clairement pas.
Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de montage ?
Je sais pas. Je saurais pas dire exactement pourquoi, mais ça, par exemple, c'en était pas. J'entends, hein, je comprends, mais parce que c'est aussi vraiment comme ça que je crois que les gens qui font cette musique la définissent, quoi. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait telle et telle chose pour que.
Ah, d'accord.
Et donc après, il faudrait en tchatcher avec les gens qui la font, les professeurs. Ouais. Je me rappelle aussi que mon prof J'avais deux profs en électroacoustique et il y a un des deux qui était plus jeune, qui s'appelle Stéphane Morel. Et je me rappelle qu'il était quand même, si ce n'est déprimé, en tout cas, il sentait qu'il y avait assez peu d'engouement de nouvelles personnes pour cette musique-là. Ouais. Et je pense que ça le touchait. Et en même temps, je comprends que ça le touche. Et en même temps, je comprends un peu aussi pourquoi il y a peut-être moins de gens qui s'intéressent à cette chose-là. Bon.
Ouais. D'accord. Tu as parlé de détournement, de recyclage. Mm-hmm. Donc l'expérimentation, c'est important.
L'expérimentation, c'est fondamental même. C'est vraiment comme ça que j'envisage la fabrication de beaucoup beaucoup de choses. Le hasard, l'empirisme, et puis beaucoup le hasard, ouais. Enfin, c'est une notion qui m'intéresse vachement. Et
est-ce que il y aurait quelque chose de l'ordre de l'artisanat aussi, peut-être?
Ouais, clairement. Dans le sens où, par exemple, moi, je suis pas. Enfin. En tout cas, la question de la virtuosité se pose et peut-être, enfin, je fais le lien avec cette chose-là, l'artisanat. Je ne sais pas si c'est juste de faire ce lien-là, mais en tout cas, de mettre les mains dedans, je ne sais pas pourquoi j'y vois un côté maladroit dans l'artisanat, alors que c'est pas du tout ça, hein, c'est pas du tout ça que ça sous-entend, mais je vois cette chose-là un peu. Non, ouais, l'artisanat, ouais, je crois.
Alors peut-être plutôt qu'artisanat, on pourrait, pourquoi pas parler d'art brut.
Ah oui, tu ramènes tout à tes intérêts.
Ah mais lubie.
Art brut, bah ouais, super.
Bon bah voilà.
Super l'art brut. ouais.
Un côté amateurisme, tu vois, mais dans le sens de aimer faire.
Voilà. Ouais, moi c'est vrai qu'en tout cas, dans ma pratique, dans comment je cherche à... Par exemple, je me suis mis à la trompette il y a 3 mois. J'étais avec Ernest à Clermont-Ferrand. Il y avait une trompette dans un Cash Converters qui valait 150€. Et puis, ben, je l'ai acheté. Alors, la trompette, c'est quand même un des instruments très, très durs. Hein, on est d'accord. Oui. Je ne sais pas s'il y a des trompettistes ici. Mais
ouais, c'est dur.
Voilà. Donc, je me suis mis à ça. Et puis, ben voilà, je suis débutant, quoi. Mais pour autant, je commence à en jouer. J'en joue. L'autre jour, on a fait un concert à Dijon, au Consortium, là, chez Why Not, avec Kaumwald. Et puis, j'ai pris ma trompette, puis j'ai fait 3 notes. Ça passait dans des effets. Voilà. Bon, voilà, je m'en suis servi pour la première fois en live. Et puis, je m'en suis servi un peu sur l'enregistrement du disque d'Organiès aussi. Un tout petit peu, vraiment. Je ne sais pas faire grand-chose. Mais je crois qu'il y a vraiment un truc qui m'intéresse dans le geste, dans la sensation, dans comprendre comment ça marche, ouais. Dans tiens, cette embouchure hyper bizarre, qu'est-ce que c'est? Donc je suis allé lire pas mal de trucs, je me suis renseigné, j'ai appelé des potes trompettistes, je suis allé prendre un cours avec Louis Laurin, un pote qui m'a donné une sorte de cours, un petit cours de trompette. Enfin voilà, donc en fait ça a mis en branle plein de trucs en fait de faire cette chose-là. Je savais que ça serait pas anodin d'acheter une trompette à 35 piges, ça c'est sûr. Mais en même temps, voilà, il y a cette curiosité d'apprendre le. Ouais, il y a ce truc d'amateurisme de fait puisque je peux pas dire que je suis professionnel de la trompette, par ouais, exemple. Ouais. Ouais, ce truc de continuer à apprendre, en
voilà,
fait.
Voilà, c'est ça.
Je crois de continuer à apprendre, en fait. C'est vraiment le truc qui me plaît.
Et de remettre en question aussi, peut-être, des choses. Enfin, les pratiques.
Ben... Alors ça, c'est encore un autre truc.
Ah.
Non, mais... C'est-à-dire de remettre en question, tu veux dire.
C'est-à-dire mettre à l'épreuve de nouvelles expériences les pratiques musicales que tu as déjà. Voilà, c'était ça.
Ben oui, ça, ça j'ai l'impression que de toute façon, avec les collaborations, avec les rencontres, avec les, de toute façon, je pense que c'est mis à l'épreuve, parce qu'il faut faire de la musique, quoi, en fait. Parce que t'as beau être débutant, tu peux très bien être débutant de la trompette et vraiment faire de la musique et vraiment faire des concerts avec. En fait, donc cette chose-là est pas très liée. Donc je pense que oui, effectivement, mettre en question, mettre à l'épreuve les pratiques, c'est un truc qui se fait. C'est un truc qui se fait. C'est-à-dire comment dire, ce que je veux dire, c'est que ça arrive, quoi. Et je pense que quand tu es trop confortable dans quelque chose, j'espère en tout cas avoir des amis assez de confiance pour me le dire, quoi. Mmh. Pour me dire, mec, voilà, c'est bon, tu peux passer à autre chose. Ou alors, pose-toi des questions. Après, je suis quelqu'un qui se remet beaucoup en question facilement. Alors, j'essaye aussi de pas trop le faire parce que sinon, sinon c'est des trucs de confiance. Après, pas, ouais. Moi, j'ai plus du tout assez confiance pour faire les choses aussi. Donc, c'est des trucs de balance comme ça.
Alors, tu parlais de faire de la musique, on va peut-être en écouter, parce qu'on a, on a parlé pas mal de temps, là.
On a déjà pas mal parlé, ouais.
Ben oui, alors peut-être Comvald.
Un Comvald ?
Ouais.
Allez, ben alors je mets un morceau du dernier disque qui est sorti sur Opal Tapes, label anglais. Ah. Et c'est parti.
Cela dit.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, qui n'appellera à voter pour rien du tout, puisqu'on a l'émission Les Oreilles Libres, voilà, consacrée aujourd'hui à notre invité Clément Vercelletto et ses nombreux projets, dont Comvald. Alors j'aimerais savoir comment s'est créé Comvald, comment as-tu rencontré Ernest Bergès?
Alors, eh ben, il était une fois à Lyon. Non, ben Ernest, on s'est rencontré à Lyon. Via des amis interposés, mais ça faisait déjà un petit moment que je voyais un peu ce qu'il faisait, qu'on se croisait, et que... En fait, il y a un pote, Mathieu Perrault, bassiste, que je salue, qui nous a mis en lien, comme ça. Et d'ailleurs, les premières répètes qu'on a fait, c'était avec lui. On était trois.
Ah oui.
Et vite il nous a laissé quoi. Il a dit bon, je crois que vous avez beaucoup de trucs à faire ensemble.
Ah d'accord.
Et puis voilà, ça a commencé comme ça, mais ça a été un truc un peu de longue haleine quoi. On a mis bien 3 ans à savoir comment faire de la musique ensemble.
Ouais.
Ne serait-ce que ça.
Parce que, enfin, Ernest, on l'a reçu dans l'émission aussi, fabuleuse émission. Il est assez branché pour nos auditeurs. On se rappelle que c'est le garçon qui est très intéressé par les musiques traditionnelles et tout ça. Toi, tu viens pas du tout de cet univers-là.
Ben moi, je viens d'autres musiques traditionnelles dans le sens où j'ai fait beaucoup de percutrade,
ah oui.
Du coup africaine.
Africaine, ouais.
Après, c'est pas les musiques trad.
Parce que lui, c'est vraiment très assez ciblé sur l'Auvergne.
Ouais, tout à fait, ouais, carrément.
Ouais, ouais.
À ce moment-là, je pense que en fait, quand on s'est rencontrés, il commençait à découvrir ce truc-là.
Ouais.
Parce qu'en fait, c'est un truc qu'il a commencé à croiser au moment où il était au CFEDEM, et c'est à peu près le moment où moi je l'ai rencontré aussi. Le CFEDEM, c'est la formation de prof de musique. Voilà, donc en fait, Comvald a, je pense, enfin de toute façon, Comvald existait, préexistait avant que Ernest fasse vraiment son solo, son
D'accord,
dur,
ouais.
etc.
Ouais, ouais.
Et puis, donc du coup, c'est. Je pense aussi, c'est un peu en miroir de Comvald que lui s'est fait cette chose-là. Enfin,
ouais, ouais.
Je pense qu'il y a eu un truc comme ça, un peu qui s'est équilibré aussi comme ça.
Ouais.
C'est qu'il avait besoin aussi de faire ses trucs, où il n'y avait peut-être pas forcément l'espace dans le duo. Donc voilà, je ne sais pas exactement.
Ouais, parce que ça, c'est ton plus ancienne formation. Tu disais 7 ans, c'est ça?
Ouais.
7 ans, donc ouais. Un nombre incalculable de concerts, j'imagine. Et puis des albums?
Ouais, il y a trois. Pour l'instant, il y a 3 disques, une cassette officielle qui sont sortis. Il y a un premier disque, le tout premier qui est sorti sur Opal Tapes, label anglais, dirigé par Stephen Bishop, que je salue.
Mais alors comment ça s'est fait, cette rencontre avec c'est quand même un fameux label, hein, Opal Tapes.
Ben alors c'est un peu particulier. Avec Ernest, on avait un petit EP, 5 titres, qu'on avait demandé. On avait demandé à un ami de faire une pochette, on avait gravé sur CDR, on commençait un petit peu doucement à le distribuer à des amis, et on commençait tout juste à chercher un label. Et on faisait les choses un peu bien, on avait acheté des enveloppes à bulles dans lesquelles on mettait notre petit CDR, et puis on écrivait à la main, et puis on envoyait ça à des labels. Et puis à ce moment-là, pendant sur cette période-là, en tchatchant avec un pote... voilà, je lui ai dit, moi, on cherche un label avec Ernest. Et puis, il m'a parlé de ça, Opal Tapes, que je ne connaissais pas. Qui, en fait, à ce moment-là, était très récent. Ça faisait un an et demi qu'il avait commencé, je pense.
Ouais.
Et il y avait... Nous, le seul moyen qu'on avait pour le joindre, c'était Facebook. Et en fait, sur sa page Facebook, il y avait marqué nos démos, quoi.
Ah, d'accord.
Donc, pas de démos, quoi. Ne m'envoyez plus de démos. Et donc, on y va... quand même par message privé, comme on dit, est-ce qu'on peut-être t'envoyer une démo? Et puis il nous dit ouais, il nous donne une adresse mail, il nous dit envoie-la là. Et puis ben on envoie le disque via l'adresse mail. Et puis en fait 3 heures après, il nous répond.
Ouais.
Et il nous dit, il nous dit que ça lui plaît vachement, que c'est super et qu'il voudrait le sortir en cassette.
Ah ouais.
Ça, c'était le premier truc. Donc tout ça, ça a pris à peu près une après-midi, quoi. C'est-à-dire qu'entre le moment où on a envoyé le truc et le moment où on nous a dit OK, je le sors, ça nous a pris 4 heures. Donc c'était assez taré. Donc là, on était vraiment à fond, c'était assez drôle. On a passé, je pense, 15 jours à parler que de ça. Et puis en fait, un mois après ou un truc comme ça, il nous a remis un mail en nous disant écoutez, j'ai réécouté et je pense que ça vaut le coup de le sortir en vinyle. Donc là, on a encore plus halluciné. Donc à un moment, il était même question de faire vinyle et cassette. Finalement, ça s'est fini en vinyle. Et donc ça a été le premier disque de Camval. Il s'est passé comme ça, quoi. Il s'est passé... Donc on n'a pas vraiment eu le temps même de chercher que, en fait, ce mec avait tilté sur ce qu'on faisait et a décidé de le sortir. Et après, on a sorti un deuxième disque chez lui, qui est le dernier, la Rapa Nuit Clan.
D'accord. Et dont
on vient d'écouter un extrait, un morceau qui s'appelle Minorque. Et je pense qu'il y en aura d'autres avec lui.
Ouais. Alors moi, je me souviens d'avoir interviewé Bérangère Maximin, qui a eu à peu près le même truc avec John Zorn. Elle a envoyé son premier disque à John Zorn, puis ça lui a plu, il a sorti.
Ouais.
Et du coup, ça a eu des conséquences sur sa renommée, sa réputation internationale, et puis sur la vision des petits camarades de l'électroacoustique dont on parlait tout à l'heure, qui n'ont pas forcément bien pris la chose, qui ont été jaloux et tout ça. Est-ce que vous avez eu des retours comme ça? Alors, est-ce que déjà vous avez eu des retours à l'international? Est-ce que ça vous a fait tourner
On n'a jamais tourné. Enfin, là, on est allé en Colombie, mais c'était pour d'autres raisons. C'était pas à cause de ça. Mais on a en gros principalement tourné en Europe avec Humwald, quoi. Ah oui. Et puis. Donc Angleterre, Hollande, Belgique, Allemagne, Suisse, c'est les pays principaux, quoi, on va dire. Donc c'est tout ce qui est quand même assez proche de la France. On n'est jamais allé jouer à New York, quoi.
Ouais.
cela dit, Opal Tapes, c'est un label qui a, je sais pas, maintenant qui a peut-être 4 ou 5 ans. Donc c'est quand même tout jeune. C'est un label qui a sorti énormément de choses très vite, effectivement, qui s'est fait connaître assez vite. Après, ça reste quand même dans une... Enfin, il me semble quand même dans une niche aussi. Et je pense que ça n'a pas du tout l'ampleur que pourrait avoir John Zorn, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus connu, je pense.
Est-ce que tu es attaché à des courants musicaux ou des périodes ou encore à des musiciens en particulier ?
Courants musicaux. Je suis attaché à plein de courants musicaux. J'écoutais beaucoup, beaucoup de jazz et beaucoup de free jazz à un moment. Je suis beaucoup allé aussi en free party et j'ai beaucoup fait et mixé de la techno. Donc j'ai beaucoup, beaucoup écouté cette musique-là aussi. Et après... Donc il y aurait plein de musiciens à dire, mais j'ai été marqué petit par c'est toujours pareil, hein, c'est les disques des parents, mais donc j'ai été marqué petit par le rock bottom de Robert Wyatt, et je crois que ça c'est un des trucs qui m'a le plus touché, je crois, dans le psychédélisme qu'il pouvait y avoir, et je pense aussi dans une forme de mélancolie et de... Ouais, je crois, de mélancolie. Enfin, il y a un truc qui m'a vraiment touché, je crois, qui est peut-être proche de moi d'une manière un peu particulière. Généralement, c'est le, je dis Robert Wyatt, mais... ça pourrait être d'autres trucs, mais ouais. Puis en plus, en ce moment, j'en réécoute encore d'autres, donc...
Il y a de quoi faire. Alors, moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une filiation entre Comvald et Orgagnès? Est-ce que Orgagnès serait Comvald plus LG? Ce que je pense pas, hein. Je peux poser la question un peu naïvement, mais... quelle évolution il y a et qu'est-ce que apporte LG dans le...
Je crois que bizarrement, c'est vraiment pas comme Vald. Enfin, c'est bizarre parce que tout se chevauche un peu parce que forcément, le fait d'avoir fait Organiès, ça influence maintenant aussi comme Vald, comment on fait, enfin. Mais bon, tout ça était plus ou moins lié, c'est-à-dire que c'est vraiment des questions de période, je crois. Donc, pour essayer de répondre. L'idée, c'était vraiment pas de faire ça. Même si c'est dur d'en parler, hein, de dire tiens, alors c'est quoi Organiès ? Souvent, parce que le truc le plus connu, c'est Kamval ou Sourdure, de dire ah bah c'est Sourdure, ouais. Clément Verselletto, et puis LG. Ou on dit comment ? Alors c'est Kamval plus LG. Ouais. En même temps, de dire ça, ça donne déjà des couleurs très, très particulières. Et donc, je pense que ça permet quand même à certaines personnes de peut-être imaginer un peu ce que ça pourrait être. Ouais. Et en même temps, l'idée, c'est quand même de faire Organiès, quoi, qui est un trio qui n'existe pas si on n'est pas tous les trois. Et on n'a pas du tout les mêmes fonctionnements, par exemple. Enfin, je ne pense pas qu'on ait les mêmes fonctionnements avec Ernest dans Organiès et dans... Ouais. Et dans Kamval, dans le sens où, par exemple, dans Organiès, Ernest, il joue du violon, principalement, ouais. Et de la voix, alors que dans Kamval, il y a du violon un petit peu sur certains enregistrements, mais en live, il n'en joue pas du tout. Donc, c'est pas les mêmes dispositifs. Je pense que, de fait, les pratiques qu'on a en solo, en duo, en trio, se mélangent et viennent se catapulter, en fait.
Dans Organiès, tu joues de la batterie ?
Ouais, une sorte de batterie.
Ouais,
mais...
Pas pendant Kamval, si ?
Non, mais ouais, en fait... Par exemple, ouais. Et en même temps, je te dis ça, et maintenant, avec Kamval, on est en train de préparer un nouveau set live... qui est un set avec des percussions, en fait. Qui est un set avec des tombasses... Enfin, voilà, des percussions. On est tous les deux aux percussions. On est en train de se mettre à travailler ce truc-là. Et le nouveau disque qu'on a en grande partie enregistré, le prochain disque de Kamval, va aussi dans ce sens-là. C'est des prises qui ont été faites à partir de prises de son live de percu. Mmh. Donc, il y a un truc qui se mélange... De fait, ouais. Aussi, voilà, comme ça.
Et Organiès, ça vient d'où ce nom ?
Organiès, ça vient d'où ? Organiès, en fait, on cherchait un nom, on a eu cette envie de faire le truc à trois, de faire le plan à trois. Et allez, hop, je l'ai faite.
Ouais.
Et du coup, on s'est retrouvés en fait sur Skype. J'étais avec Ernest, on était à Lyon devant un ordi, et de l'autre côté, il y avait Laurent à Bruxelles, et on s'est mis à dire un peu tout et n'importe quoi, un peu à brainstormer comme ça. Et puis on est notamment aussi allé sur les sites de Band Name Generator. Ouais, c'est des trucs où en fait tu mets un style de musique, puis ça te génère des noms. Ça génère des noms en fonction de ton style de musique. Et tu peux même, par exemple, tu peux mettre un mot, un style. Par exemple, on pourrait mettre orgue. Et puis un style, et puis ça génère un mot, voilà, orgue, et puis heavy metal. Alors il va faire une sorte d'association de mots qui fait genre nom de groupe heavy metal avec orgue dedans. Et je crois que c'était en disant des conneries comme ça, petit à petit, en cherchant sur internet, qu'on a trouvé ce truc là. On est tombé plus ou moins d'accord. Au début, il y avait un peu des hésitations. Laurent voulait qu'on l'écrive orgue à plus loin nièce, comme la nièce, le neveu.
Oui.
Enfin, voilà, il y avait plein de discussions comme ça qui ne sont pas forcément hyper intéressantes. Cela dit, ce nom, je l'aime beaucoup. Et je crois qu'il nous va bien. Je crois qu'il nous va bien.
Bah, peut-être on peut écouter alors un morceau de Organiès.
Je vous fais... attends, parce qu'il faut que je dise un truc avant. Il faut que je dise un truc parce que même si... Enfin voilà, on vient d'enregistrer un disque.
C'est une exclue.
Alors c'est complètement une exclue. Mais en plus d'être une exclue, c'est que c'est pas fini d'être mixé.
Ah.
Et en plus, c'est peut-être un morceau qui sera, allez, probablement pas sur le disque.
Oh.
Donc voilà. Mais à la vôtre, quoi. C'est parti.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres avec notre invité, Clément Vercelletto. On vient d'écouter Organiès.
Oui, donc dans Organiès, tu sembles t'intéresser à la voix, mais aussi dans tes travaux au théâtre, tu sembles t'intéresser à la voix. Parce que Ernest Bergès chante et ELG aussi chante dans Organiès.
Ouais, moi dans Organiès, je chante pas, mais ça pourrait arriver. Il y a un morceau sur le prochain disque où il y a un truc qu'on fait à trois voix. C'est principalement quand même Laurent et Ernest qui prennent en charge ce truc-là dans Organiest. Aussi, moi tout seul, j'ai pas une pratique. C'est un truc dont je me sers, la voix, mais j'ai pas une pratique, par exemple, comme Laurent en a une, qui est vraiment centrale, en fait. Voilà, si vous avez déjà écouté un peu de LG, dans 90% de ces morceaux, il y a vraiment de la voix, voire même centralement de la voix, et puis il y a beaucoup de... Il y a des histoires, en fait. Il y a une narration qui est faite directement avec ça. Moi, je m'intéresse à la voix dans le sens où je fais pas mal de trucs avec le théâtre.
Voilà.
Et dans ce sens-là, j'en enregistre beaucoup, j'en traite, j'en transforme, j'en... Voilà. Après, moi, ma voix, c'est un truc que j'ai bien envie d'interroger. C'est quelque chose vers lequel j'ai envie d'aller. Mais j'ai déjà fait un peu des petits trucs avec... Dans certains spectacles, je chante, sur certains morceaux, voilà.
Ouais. Ouais. J'ai remarqué aussi que pour les travaux de spectacle, il y avait beaucoup de compositions avec la voix comme base. Ça, on voit que ça t'intéresse. On voit justement. Et pour revenir à Organiès et à la voix de LG, est-ce que vous avez discuté de son choix vocal?
Non, je crois que vraiment c'est aussi, je pense que pour que musique se fasse, il faut qu'il y ait quand même le plus de liberté possible, il me semble. Après, en faisant de la musique avec Laurent, on est obligé de le prendre en entier, quoi. Enfin, et pareil pour moi, et pareil pour Ernest, et après, on ajuste. Par exemple, sur le morceau qu'on vient d'entendre, il y a une voix qui est plutôt en arrière-plan. Encore une fois, le mix n'est pas fait, mais qui est plutôt en arrière-plan, qui est une voix complètement pitchée, un peu comme ça, déformée, un peu grommelot. En l'occurrence, Laurent parle en italien. Et ça a été un truc qu'on a trouvé petit à petit... et justement sur ce morceau-là, par exemple, on a eu du mal à trouver la qualité de voix qu'il fallait, etc. Donc ça dépend, je crois que ça dépend des fois. Et par rapport à Laurent, non, on a, non, je crois que c'était quand même assez, assez libre, quoi. Après, généralement, ça vient plus, plus de la personne en particulier. Je pense que souvent, par exemple, moi, je peux dire, tiens, moi, ça, ce que je fais là, je sens que je suis dans un systématisme. Je sens que je suis dans un... Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Et je pense que c'est des choses qu'on peut arriver pour de la voix, mais pour d'autres trucs aussi. Et que Laurent a pu faire un moment, voilà, là, moi, ce que je fais, en fait, je le fais, mais je suis un peu en mode automatique et ça ne m'intéresse pas trop. Qu'est-ce que... Donc, c'est, je pense que c'est plus dans ce sens-là que ça circule. Je pense qu'on sent quand on... Quand on est plus ou moins au bon endroit, quoi, il me semble. Ou alors, c'est qu'on connaît vraiment mal les gens avec qui on fait la, la musique, ce qui n'est pas le cas du tout aussi. C'est aussi un groupe d'amis, beaucoup. On est,
justement, moi, j'avais une question par rapport à la part d'improvisation dans, dans Comval ou Orgagnès. Est-ce qu'il y a une part d'improvisation importante ou tout, tout est plus ou moins composé?
Alors, dans Orgagnès, ça tend à s'écrire quand même, toute proportion gardée, hein, mais on n'est pas des lecteurs, aucun de nous ne lit vraiment, on n'écrit pas la musique sur papier. Hein, quand je dis écrire, c'est plus fixé et que les rendez-vous qu'on a sont de plus en plus précis. C'était relativement improvisé et il me semble que plus les places en fait, de chacun se sont définies, plus la musique a eu tendance à s'écrire avec des gros guillemets. C'est-à-dire que mine de rien, en fait, je fais un peu la batterie pour dire vite. Mm-hmm. Ernest fait un peu la basse pour dire vite. Et Laurent fait un peu la guitare et le chant pour dire vite. Si on devait simplifier la chose. Et donc, mine de rien, ça fait une sorte de groupe de rock ou de chanson, appelons-le comme on veut. Et que du coup, en fait, du fait de cet instrumentarium-là et des places de chacun, eh ben, on s'est retrouvé à faire un peu, des fois, bah, couplet-refrain, ABC. Ah oui, et du coup, j'exagère un peu, hein, mais en tout cas, il y a de plus en plus cette chose-là. Et puis, on a besoin aussi, nous, de répéter, de jouer vraiment cette musique-là, de la répéter. Ensemble que ça tourne, que ça groove, que ça tout ce qu'on veut. Donc c'est aussi une exigence qui a fait que on s'est mis à écrire, je pense, enfin à écrire, à fixer les choses. Ce qui est peut-être moins vrai pour Kaumwald, ou enfin ça dépend des fois, mais ça dépend si on parle du live ou de l'enregistrement, parce qu'avec Kaumwald on fait pas les morceaux qu'on fait sur disque, c'est pas les morceaux qu'on fait en live. Donc, c'est deux fonctionnements assez différents, en fait. Il y a peut-être plus de part d'improvisation. C'est moins fixé dans Kaumwald.
D'accord.
Je peux en parler, hein, mais je sais pas si... On...
Bah, ouais, je crois que c'est sur ton site, que très, très beau site d'ailleurs.
Entre Attends, c'est un vieux truc pourtant.
Ouais, mais j'ai vu que tu pratiquais de la musique improvisée. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Je voudrais savoir dans quel cadre, quel instrument, avec qui.
Bah, je mets musique improvisée dans le sens où il y a beaucoup de choses, par exemple notamment dans Kaumwald ou même solo qui partent d'improvisation. Après, je suis pas, on peut pas dire que je sois dans le
circuit de...
dans le circuit un petit peu via Coax qui m'ont invité notamment à faire une radio là où j'ai fait un solo où c'est plus cette population là et puis cette esthétique là quand même. Je pense que normalement on va réitérer avec Julien Després des collaborations. Je pense que si ça se fait, je pense que ça sera probablement avec lui que je vais faire ça. Et quel dispositif? Je pense que ça va être synthé modulaire et probablement un soufflant. Un mélange, en fait. Ce que je fais souvent, c'est avec pour pouvoir quand même garder un lien avec un truc un peu un geste un peu plus tangible. Et puis de la synthèse. Voilà.
Je me demandais justement quelle était la place du corps dans ton travail.
Hyper importante. Hyper importante dans le sens où je J'ai notamment dû arrêter la percussion à cause de problèmes de poignet, etc., de tendinite, etc. Je suis assez prédisposé à avoir des douleurs. Donc, en fait, du coup, le corps en fait, a pris une place questionnante, en tout cas. Et par exemple, avec Homewald, on a fait le choix de jouer dans la fosse. C'est-à-dire qu'on joue, quand on joue en live, on joue devant la façade, dans la fosse, par terre, enfin, ça dépend des endroits, mais en gros, voilà, au milieu des gens. Et ça, c'est un choix qui est délibéré et qui est pour deux raisons principales. Un, pour entendre le mieux, c'est-à-dire ne pas se retrouver sur scène avec des retours, avec un plateau qui vibre où on n'entend pas exactement ce qu'on fait, sachant qu'avec Homewald, les haut-parleurs, c'est vraiment un instrument de musique, quoi. On joue vraiment avec les haut-parleurs. Et aussi beaucoup pour que les gens voient ce qu'on fait. Les gens que le lien entre le geste et le son soit, a priori, un peu plus compréhensible, un peu plus direct. Après, avec des machines, même quand on l'a sous les yeux, des fois, ça peut quand même rester très abstrait, très obscur, très fantasmé, très magique. Beaucoup plus qu'avec une clarinette ou un tom basse, quoi. Mais c'est dans ce sens-là aussi qu'on fait ce truc-là. Ouais, le corps... ouais, tout le temps, en fait.
Parce que là, je crois. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais de la trompette.
Ouais.
Et en hors antenne, en fait, ouais. Tu m'as dit oui, la trompette et puis la clarinette, c'est pas du tout, ça se passe pas du tout de la même façon, ouais. Dans le corps, etc. Donc, c'est. Oui.
Bah, par exemple, c'est vrai que j'ai fait ce petit cours avec Louis Laurin, là, de trompette. Et on en parlait. Et y a un côté vraiment très, très méditatif. C'est-à-dire que. C'est vraiment des sortes de forces très très opposées. Il faut à la fois être hyper calme, hyper centré. C'est une embouchure qui est tout petite, vraiment très petite. Il y a un truc où c'est une toute petite partie de son corps qui est en jeu, enfin en tout cas la vibration. Et en même temps, il y a un truc de calme intérieur, de colonne d'air, d'immobilité, d'ouverture. Parce qu'il faut avoir le larynx bien ouvert, il faut être posé, il faut être décontracté, sinon ça ne sort pas. Enfin, y a un ensemble de choses qui fait que c'est très, ça engage vraiment tout le corps quoi, en entier. Et je sais pas, la clarinette, par exemple, ou les instruments à hanches, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Je n'ai pas du tout les mêmes sensations. Ça ne me demande pas du tout la même concentration. Ça se place ailleurs. Quoi.
Je voudrais venir, parce qu'il ne nous reste plus trop de temps, en fait, un quart d'heure.
Ça va vite, ouais.
Ça va vite. Je voudrais en venir à tes collaborations avec le spectacle vivant.
Ouais.
Je veux savoir comment tu es arrivé à ça. Est-ce que c'est la rencontre avec des metteurs en scène, des chorégraphes
Alors, j'ai un papa qui est metteur en scène, donc en fait, une maman qui a été comédienne jusqu'à 40 ans.
D'accord.
Donc, c'est, je suis un peu né dans ce truc-là. Et justement au moment où j'ai dû arrêter la percussion, je me suis retrouvé un peu comme ça, entre deux trucs, à faire beaucoup de musique électronique, mais à pas trop savoir exactement ce que j'allais en faire. Et puis j'ai fait une formation de technique.
Ah oui.
Dans le spectacle vivant. Donc où je me suis retrouvé à travailler en tant que technicien, son, lumière, et puis après je me suis orienté vers le son.
Ce qui nous a bien servi aujourd'hui.
Ce qui nous a servi à enlever le pad -20 dB sur le côté gauche de l'ordinateur.
Merci, vraiment.
De rien. Donc je me suis retrouvé, en fait, j'ai toujours été dans les théâtres, quoi, hein, pour dire vite. Mais donc je me suis retrouvé à faire de la technique d'abord. Et puis en sortant de cette formation, j'ai dit, donc je faisais déjà de la musique à ce moment-là, hein, mais j'ai dit que je ne voulais pas. Être appelé pour faire de la technique pure et que que j'étais musicien et que je comptais continuer à faire ça. Et donc ça a pris un petit peu plus de temps, mais j'ai commencé à travailler petit à petit avec des metteurs en scène. Et puis voilà, en fait, ça s'est fait petit à petit. Petit à petit, j'ai fait un peu ce pari-là. Et puis, voilà, il se trouve que j'étais déjà dans un réseau à Lyon de gens dans le théâtre. Donc. quand les gens ont dit ah le fils Verseletto il fait de la musique, et ben du coup voilà, enfin du coup ça, je pense que ça a aussi permis peut-être que les choses se mettent en place.
J'ai une question par rapport à ça. Comment tu es intégré à un projet de spectacle? Est-ce que tu es intégré dès les phases de création, de répétition? Est-ce qu'on fait appel aux musiciens ou c'est une fois que tout est plus ou moins fini, voilà, il faudra que tu fasses...
Ça dépend vraiment des cas, mais moi je défends en tout cas une position où je suis là le plus possible dès le début avec toute l'équipe, ouais, et en collaboration en fait en aller-retour avec le metteur en scène, avec l'équipe de création, pour que les choses se fassent ensemble et que en fait ce soit quelque chose qui puisse m'appartenir autant qu'à eux et que ce soit pas justement un truc qui viendrait se coller ou se juxtaposer, ouais. Mais ça m'est jamais arrivé, mais ça peut arriver. Je pense qu'il y a des metteurs en scène qui demandent d'arriver, ou que ce soit plus des boulots de commande, en fait.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Moi, c'est pas trop mon cas. Là, le prochain truc que je fais, c'est avec un metteur en scène qui je travaille depuis longtemps, qui s'appelle Mathieu Cruciani. Et là, je vais être sur scène, par exemple.
Ah bah voilà.
Donc, ça dépend aussi de ça, de cette histoire de place. Est-ce que c'est des choses qui sont préenregistré et puis diffusé ensuite, est-ce que je suis sur scène ou pas?
Toutes les occurrences sont possibles.
Ouais, j'ai eu fait je pense à plus ou moins tous les cas de figure.
Et quand tu es sur scène par exemple, est-ce qu'on te demande, est-ce que tu as un rôle de comédien
ouais, ça va souvent vite dans ce sens là ouais. On se retrouve vite, en fait on est sur scène, donc en fait c'est vite tentant. Après tout est... Enfin, ça dépend des fois. Ça dépend de la place qu'il y a, ça dépend de l'envie. Voilà, ça dépend...
Et alors, par exemple, tu es sur scène, c'est toi qui vas interpréter toutes tes musiques. Est-ce que tu fais appel, par exemple, à des musiciens pour une bande ou tu t'arranges pour que ce soit toi qui fasse tout?
Je m'arrange pour que ce soit moi qui fasse tout. Mais parce que peut-être que forcément, le jour où on va me demander à quoi tu raccordes, je vais avoir vraiment du mal à le faire. Donc peut-être que là peut-être que là par exemple je demanderai à Ernest qui demandera à je sais pas qui et puis que j'enregistrerai, je composerai un truc et puis sinon c'est aussi un peu le côté multi-instrumentiste que j'aime bien voilà, et encore une fois je me sers d'instruments dont je sais pas forcément hyper bien jouer mais que je vais enregistrer, superposer ou composer avec, et ça va me permettre de faire, j'en sais rien moi, un ensemble de cuivres avec mon saxophone soprane et ma trompette que j'aurais enregistré 10 fois les uns sur les autres, enfin, par exemple. Après en live ça sera plus compliqué, si vraiment pour X raisons on a besoin d'un truc très particulier, il y a des choses que je peux pas faire quoi. Par exemple je suis un piètre guitariste, et donc du coup peut-être que là si j'avais dû inviter quelqu'un j'aurais invité un guitariste quoi.
Et ta pratique de l'électroacoustique, est-ce que tu t'en sers pour faire, je sais pas, des ambiances sonores, du vent, de la mer, je sais pas quoi?
Ouais, ma pratique d'électroacoustique, en fait, bizarrement, techniquement, j'ai pas appris grand-chose au conservatoire, c'est-à-dire que je savais déjà enregistrer, je savais déjà monter, etc. Par contre, sur les idées de narration et d'écriture, ouais, ça m'a appris. Ouais. Ça m'a appris. Et je m'en sers, ça c'est un truc dont je me sers tout le temps, en fait. J'en sais rien, même dans Kumbal, même dans... C'est plus de l'écriture, en fait, presque du scénario, en fait. Dans ce sens-là, ouais, ça m'a appris. Ça, je m'en sers.
Alors, on va écouter un extrait. Je voulais juste savoir si tu es tenté par intégrer une compagnie, par exemple. Est-ce que ça se fait, ça, que tu sois le musicien ou le musicien sur scène d'une compagnie ou...
Attitré,
voilà, c'est ça.
Pourquoi pas? Mais ça oblige à une sorte d'exclusivité comme ça.
Ah d'accord.
Si c'est ça que tu poses comme question. Par exemple là avec Mathieu, ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble. Ça veut pas dire qu'il a pas travaillé avec d'autres musiciens.
Ouais d'accord. Plutôt pareil. Ouais.
Mais ou qu'il travaillera pas avec d'autres musiciens. C'est plus. Je pense que c'est bien de réinterroger les collaborations et que ce soit pas un systématisme. Je pense que c'est bien.
Alors, qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter?
Alors, c'est un extrait d'une pièce que j'ai faite avec du piano. Seulement, c'est quasiment que du piano traité. Et que j'ai faite pour un spectacle de Bastien Mignot qui se passait en extérieur. Et voilà, je vous laisse écouter.
Voilà, on va terminer l'émission avec Clément. Peut-être avais-tu une question, Patricia ?
Oui, je voulais savoir, tu as été et es-tu toujours intervenant à Bruxelles dans la classe de scénographie de l'École nationale des arts visuels de la Cambre. En tant qu'artiste, que te semble-t-il l'essentiel de transmettre ?
Oh.
Voilà.
Et là, il faut faire hyper concis.
Voilà,
plus,
si je t'avais dit, ouais.
Rien.
Transmettre, rien, surtout pas, ne rien laisser. De transmettre, je sais pas. Ce que j'essaie de faire, alors, en tout cas, à la camp, quand j'y suis, c'est de. Je crois. C'est des élèves qui ne sont pas musiciens, donc c'est des élèves qui sont scénographes, donc c'est ça aussi qui est particulier.
Ah, c'est d'autant plus intéressant.
Enfin, en tout cas, s'ils sont musiciens, moi je ne sais pas qu'ils le... Enfin, voilà, peut-être qu'ils ont une pratique musicale, mais c'est pas dans ce cadre-là que j'interviens. Du coup, transmettre, encore une fois, je vais dire curiosité, ça va être un peu nul, mais je crois que c'est un peu ça. L'idée, à chaque fois, c'est une semaine... Et je crois que si il peut leur rester un petit peu l'envie de, par exemple, écouter la ville un peu différemment, écouter des musiques un peu plus aventureuses, pas écouter que du Rihanna, j'adore Rihanna, mais enfin voilà, cette idée d'ouverture là et de curiosité, bon, pff, toujours le même mot, mais
Il est très très bien ce mot-là. Nous, c'est, on fait pas autre chose ici. Hein.
Ouais. Ben voilà, donc allez, pour dire vite, ça va être ça.
Très bien.
Ouais, très bien.
C'est parfait.
Alors, on avait commencé l'émission en écoutant ton projet Tape Ensemble avec Léa Drouet, dont tu nous as parlé.
Ouais.
Donc, pour signaler que le 18 mai, aux Instants Chavirés, tu participes, enfin, vous participez à une soirée dans le cadre d'un concert dans le cadre d'une soirée Vélac Export. Est-ce que tu peux. C'est quoi ça, Vélac Export?
Je pourrais mal en parler. C'est vraiment Yann, le gars qui. C'est, donc, c'est sur invitation de Yann, le gars, qu'on fait cette soirée. Je sais qu'il y a toute une bande de. Je suis à deux doigts de dire une bêtise, mais je crois que c'est des Hollandais, mais je suis même pas sûr. Ouais. Donc c'est te dire à quel point je suis au courant. Et voilà, donc c'est sur son invitation. Il avait vu Tape Ensemble au Palais de Tokyo à rentrée dernière, et il m'a dit il faut qu'on le refasse. Et donc voilà. D'ailleurs, je cherche quelques participants en plus pour faire la performance. Donc s'il y a des gens qui sont super intéressés pour venir faire Tape Ensemble. Qu'il me contacte.
Ouais, ouais.
Voilà, par Facebook, par
oui,
Internet.
De faire partie des 20 personnes qui auront un magnétophone,
ouais.
Oui,
ouais.
Dont tu parles.
Ouais, bah. Voilà.
Bon. Est-ce que tu as d'autres projets en préparation, des tournées, des concerts à nous annoncer?
Donc, prochain truc que je fais, c'est une adaptation de Andromaque. Mise en scène par Mathieu Cruciani, ça sera la Batie d'Urfée, début juillet, je crois que c'est 5. 4, 5, 6 ou un truc comme ça. Voilà. Tape Ensemble le 18 mai, Instant Chaviré. Et puis, c'est déjà pas mal. Après, ça sera l'été. On a des choses avec Organes en août, début août. Voilà, mais là, le gros de la saison, concert, est plutôt derrière moi.
D'accord.
Voilà. Là, je suis parti pour un gros mois de création théâtre.
Mmh.
Bon, voilà.
Bon, très bien. Alors, moi, je vais faire quelques annonces. Vendredi 5 mai, c'est donc ce soir à 19h30 à la librairie Publico, débat avec Alain Leduc autour de son livre Octave Mirbeau 1848-1917, Le Gentleman Cambrioleur. La librairie Publico, c'est 145 rue Amelot dans le 11e arrondissement de Paris. C'est ce soir à 19h30 et demain, au même endroit, à 16h30 ce coup-ci, projection de... Ta mère en tongue, une école du vivre ensemble sur la situation des enfants roms, 16h30 demain à Publico. Le mur du fond, nos amis Patrice Cazel à la voix, Jean-Michel Chartier au tuba, à la guimbarde, Francis Larvor à l'électronique et l'ami Jacques Pochat au saxo et aux trompes sont en tournée dans le centre de la France le 5 mai. Donc c'est aujourd'hui à Limoges au CCM Jean Gagnant, le 6 demain à Tarnac au Magasin Général, le 7 yes. à Ennet le Château au Bistrot Culture, le 8 à Saint-Menou à l'Échoppe. Et enfin, le collectif négatif Yves-Marie Maille, Derek Wolfenden, Boris Duboulet et leurs copains seront le samedi 6 mai à 20h à la Cave à Banane, soirée autour de la chanson française. Alors, la Cave à Banane, c'est vers Châtelet-Léal, c'est 4 impasses des Bourdonnais. Il y aura des films récents du collectif négatif, plus Romaric Sobac, plus. Plusieurs performances de l'excellent Martin Granger et également le lancement de la revue de la revue Négatif. Et c'est entrée libre 4 impasse des Bourdonnais le samedi 6 mai à 20h. Voilà, d'autres annonces, Laurent, non ? Patricia non plus ? Bon, il nous reste à te remercier, Clément.
Merci à vous.
Merci.
Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter pour terminer ?
Donc un morceau du prochain disque de Kamwald. Apparaître, on ne sait pas exactement quand encore.
Merci beaucoup.
À la vôtre.
Salut.
Salut.
Salut.